Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Ibrahim Bayili.
Lutte contre le terrorisme, le Burkina sera désormais capable de contrôler son espace aérien grâce à des moyens en cours d'acquisition ou de livraison. Annonce faite par le ministre de la Défense Barthélemy Sempore. Il annonce aussi un redéploiement des forces. Coopération Burkina-France, le mouvement M30 Naba Opko, qui comptait marcher sur l'ambassade de France pour réclamer le départ du diplomate Luc Alade, ce vendredi a été violemment dispersé. Le président du Faso, Paul-Henri Damiba, a lancé ce matin à Ouagadougou l'opération d'octroi des vivres et ou des sommes d'argent aux personnes vulnérables et de déplacés internes. 200 milliards de francs CFA pour sauver l'axe Ouagadori via Kaya en attendant Kongoussi-Djibo, deux axes que les groupes armés tentent de couper par tous les moyens. Les partenaires du gouvernement disent leur disponibilité à accompagner ce projet. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Lutte contre le terrorisme. En ouverture de ce journal, le Burkina Faso sera en mesure de contrôler son espace aérien grâce à de nouveaux équipements acquis ou en cours d'acquisition par le gouvernement. Le ministre de la Défense l'a annoncé ce matin en conférence de presse. Il annonce aussi un redéploiement des forces pour un meilleur maillage du territoire. Objectif, reconquérir les espaces occupés et préserver les autres. D'ailleurs, son collègue de la cohésion sociale a indiqué que certains déplacés internes ont déjà commencé à regagner leur localité. C'était au cours d'une conférence de presse qu'a suivi pour nous Moumouni Tamboura.
De nouveaux équipements adaptés à la guerre contre l'île terroriste et le processus de réconciliation nationale étaient le principal intérêt de ce trio ministériel. Annoncé au cours du dernier Conseil des ministres mercredi dernier, la relocalisation de certaines unités va s'accompagner d'une dotation d'équipements appropriés, a assuré Barthélemy Sempore, le ministre de la Défense.
Vous avez parlé donc d'aéronefs qui sont parfois aperçus. Effectivement, nous-mêmes, nous avons des remontées d'informations ici et là sur certaines observations qui ont cours de par les populations, etc. Mais vous le savez, ce sont des phénomènes qui sont, tant que vous n'avez pas pu avoir des preuves sur un aéronef avec peut-être des prises de photos, ça reste donc des allégations. Mais il est certain que dans le cas donc du renforcement de nos capacités, nous aurons la capacité à mieux contrôler notre espace aérien avec donc des équipements permettant donc de pouvoir identifier n'importe quel type d'aéronef qui violerait notre espace.
Pour ce qui concerne la réconciliation nationale, le ministre d'État en charge de la question affirme que le processus avance et produit des fruits, même si les chiffres sont faibles. Yero Boli assure aussi que des déplacés internes ont rejoint leur localité d'origine désormais libérée.
Des populations dans leur village, pour juste indiquer que dans certaines provinces, les marchés hebdomadaires et qui ont souvent lieu les trois jours, suivant les localités, sont déjà ouverts et fonctionnels. C'est le cas à Diou, dans la province de Loudala, c'est le cas à Gorom, et aussi c'est le cas à Thiou, dans la province de Yatenga. Ces marchés qui étaient fermés il y a quelques temps sont redevenus fonctionnels et les populations les fréquentent régulièrement, s'approvisionnent, vont et reviennent.
Une révision des statuts de forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires de défense pour la patrie a été annoncée au cours de ce point de presse. Le trio ministériel évoque un meilleur maillage du territoire national après la mise en place des plans de réorganisation et d'équipement des forces armées nationales.
Plus de 3 millions de personnes vulnérables et de déplacés internes recensés sur l'ensemble du territoire burkinabé vont recevoir des vivres pour certains et du transfert d'argent pour d'autres. Cela dans le cadre de la réponse à la crise humanitaire que secoue le pays. Le top départ de cette opération a été donné ce matin à Ouagadougou par le président du Faso, Paul-Henri Damiba. Compte rendu, Solomon Nikema et Abdulaziz Zoulabou.
L'opération d'envergure nationale de distribution de vivres et de transfert d'argent aux populations vulnérables va nécessiter la mobilisation de plus de 61 milliards de francs CFA. Au total, 3 376 782 personnes seront concernées. 1 839 550 personnes recevront chacune 36 kg de vivres couvrant une période de 3 mois. Les 1 537 232 autres personnes bénéficieront de l'équivalent en transfert d'argent. Par cet acte, le gouvernement entend marquer sa solidarité à l'endroit des personnes vulnérables mais aussi aux personnes déplacées internes. Paul-Henri Damiba, président du FASO.
Et ce témoignage-là, c'est pour marquer notre engagement à soutenir et à aider en tout cas nos personnes déplacées et les personnes vulnérables dans cette période qui est assez dure pour eux et qui est dure également pour le pays.
L'occasion est saisie par le président du FASO pour lancer un appel au peuple burkinabé à accompagner cette initiative du gouvernement. Paul-Henri Damiba.
J'invite l'ensemble du peuple burkinabé à accompagner cette initiative du gouvernement parce que chacun a quelque chose qu'il peut donner à une personne vulnérable, chacun a quelque chose qu'il peut donner à une personne déplacée. Ce n'est pas seulement du matériel, ça peut être de l'affection, ça peut être de l'hospitalité, ça peut être de l'amour.
Cette marque de solidarité est bien appréciée par les bénéficiaires qui disent se sentir à nouveau fils et filles du pays. Ces mots sont portés par leur représentante Delphine Soulaman qui appelle par ailleurs à plus d'action pour leur autonomisation.
Pour redonner vie à ces zones convoitées par les terroristes ou récupérées par l'armée, il faut des ressources. Pour ce faire, le gouvernement veut mobiliser près de 200 milliards de francs CFA pour financer un plan de résilience au profit des localités de l'axe Ouaga-Kayadori. Cet axe, vous le savez, est très important dans le désenclavement du Sahel et du centre-nord durement éprouvé par les attaques terroristes. La question était au centre d'une rencontre hier entre le Premier ministre Albert Ouédraogo et les partenaires du gouvernement. Synthèse de Salomon Ikema, Abdulaziz Zoulabou.
Dénommé plan de résilience et de sécurisation de l'axe Ouaga-Kayadori, ce programme vise à reprendre le contrôle de ce tronçon important pour ces localités. Le budget nécessaire pour sa réalisation est estimé à plus de 200 milliards de francs CFA, avec une bonne partie déjà disponible. Cela va permettre aux populations concernées de se réinstaller et le rétablissement rapide de l'État à travers ses services déconcentrés. Lionel Bligot, porte-parole du gouvernement.
Le Premier ministre a instruit l'ensemble des ministres, mais également aussi les partenaires techniques et financiers, à partir donc de la théorie pour aller au concret, c'est-à-dire à la phase opérationnelle. Des engagements ont été pris. Des dates ont été programmées pour se retrouver également, pour faire démarrer le plus rapidement possible la partie opérationnelle.
Ce plan d'action est une concrétisation des promesses faites lors de la rencontre de Pau en janvier 2020, rencontre entre le président français Emmanuel Macron et ses pairs du G5 Sahel. Carsten Mecklenburg est le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne.
On est très heureux que le gouvernement actuel a repris, a confirmé cette priorité, à actualiser dans le contexte actuel les actions à entreprendre par le gouvernement et les démembrements. Ce que je peux dire ici, c'est que nous, en tant qu'Union européenne, et je suis sûr aussi pour les autres bailleurs, c'est important de soutenir, d'être à côté du peuple burkinabé.
Des actions restent à mener en faveur d'autres axes comme celui de Kongo-Sidibo, également convoité par les groupes armés terroristes, chose qui rend difficile les activités socio-économiques en faveur de ces localités.
Question sécuritaire toujours, lutter contre la France afin de libérer le Burkina du terrorisme, c'est une volonté manifeste du mouvement M30 qui a vu le jour le 30 juillet dernier. Ce mouvement piloté par la candidate malheureuse de la présidentielle 2020 a pour mot d'ordre manifesté tous les vendredis devant l'ambassade de France au Burkina jusqu'au départ de l'ambassadeur Luc Allade. Vivons la première manifestation du M30 ce 12 août avec Charles Da et Ibrahim Niaouné.
Non à la France. La France est notre ennemi. La France est le parrain du terrorisme. La France, c'est la France qui équipe, qui donne l'armement et les ressources, le ravitaillement aux groupes armés qui attaquent et qui tuent nos familles, qui entouent nos familles.
Tout est parti des propos jugés discourtois et inamicaux de la part de l'ambassadeur de France, Luc Allat, qui prononçait un discours à l'occasion de la fête nationale de la République française le 14 juillet dernier. Révolté par ses propos, Monique Yelikam met en branle le M30 pour mettre hors des frontières du Burkina l'ambassadeur de France, Luc Allat, à travers plusieurs manifestations devant l'ambassade de France. Monique Yelikam, présidente du M30.
Dégage, Luc Allat, dégage. Ne vous en faites pas, ils sont des valets locaux. Ce sont des valets locaux. La France a des traîtres parmi nous. La France a des ennemis parmi nous. Ce sont nos frères, mais des apatrides, des corrompus. Et ils sont assimilables à la France. Nous allons leur dire non. Nous allons arracher de leur main notre souveraineté.
Pour cette première manifestation, le M30 est pris dans son propre piège. La police est la première à arriver sur les lieux de rassemblement. Impossible de franchir cette barrière policière. Atteindre l'ambassade devient ici un rêve pour ces manifestants qui ne cherchent qu'à se protéger des coups de gaz lacrymogènes. Cette marche est légale et devrait se terminer pacifiquement, pense Abdoul Nassir Sanfo, qui a voulu être candidat, mais sans succès, à l'élection présidentielle de 2020.
Je crois que vous avez été témoin de ce qui s'est passé. Nous avons demandé aux autorités, on a informé les autorités de la tenue de cette marche. Et c'était d'aller vers l'ambassade de France pour prononcer un mot à l'endroit du comportement de ce que, en tout cas, de l'ambassadeur de France et partant de la diplomatie française. Alors, donc, notre manifestation n'a pas pu tenir, c'est tenu du moins.
Fin de parcours pour le M30 et ses partisans, dont certains ont assisté avec impuissance au ramassage de leur engin par la police. Pour cette sortie de protestation, on enregistre un manifestant blessé grave à la poitrine et qui a été évacué à l'hôpital. Vont-ils se désarmer pour cette lutte ou viendront-ils avec d'autres stratégies afin d'atteindre leur objectif? Telles sont les questions que se pose la population.
Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, célèbre le 12 août de chaque année la Journée internationale de la jeunesse. Placée sous le thème « Promotion du sport et autonomisation des jeunes, facteur de résilience face aux défis sécuritaires au Burkina Faso », cette journée vise à encourager et à impliquer les jeunes dans la lutte contre le terrorisme. Le lancement officiel des activités est intervenu ce vendredi 12 août à Ouagadougou en présence du ministre en charge de la jeunesse. Le compte-rendu est assuré de Lucia Zongo, Gisèle Tirogo avec la voix de Yagouba Wilio.
Environ 77,9% de la population burkinabé est jeune selon le 5e recensement général de la population et de l'habitation. Cette jeunesse constitue un avantage pour le Burkina Faso. Dans un contexte d'insécurité difficile, ce maillon fort a sa part à jouer pour le retour de la paix au pays des hommes intègres, foi de Wabou Drabo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi.
Nous avons saisi cette opportunité pour lancer un appel à la jeunesse. D'abord, de prendre conscience que cette lutte contre le terrorisme n'est pas seulement l'apanage du gouvernement. Il faut l'implication de tous.
L'avenir du pays repose sur cette jeunesse. Il faut alors lui inculquer les valeurs des différents domaines pour permettre leur participation dans la prise de décision. Moumni Diala, représentant des jeunes à l'Assemblée législative de transition.
Quand vous prenez les préoccupations des jeunes, ça va donc de la formation, la création de l'emploi, leur implication donc dans les sphères de prise de décision, mais aussi et surtout comment la jeunesse burkinabé pourrait s'engager dans la lutte contre le terrorisme au regard donc du contexte et surtout que cette jeunesse est acteur et victime donc du terrorisme.
La Journée internationale de la jeunesse a été instituée par une résolution du 17 décembre 1999 de l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a pour objectif d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse. La commémoration de cette journée vise également à célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Le thème international retenu pour cette année est « La solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges ».
La revue de presse.
La lutte contre le terrorisme, le développement du Burkina Faso, dépolisation, militarisation et syndicalisation de l'administration publique, ce sont entre autres sujets sur lesquels les quotidiens du jour opinent aujourd'hui. On fait le tour avec Brigitte Yoda.
Face à ce que le quotidien qualifie de perte de confiance des Burkinabés en leur armée, notre confrère se désole du fait que le désespoir a conduit la majorité des Burkinabés à réclamer l'aide de puissances occidentales, notamment la France, les États-Unis ou encore la Fédération de Russie. estimant que dans cette guerre, les Burkinabés ont oublié l'essentiel. Le journal pense que nous devons nous libérer nous-mêmes, car personne d'autre ne le fera à notre place. Il invite à cet effet à trouver des solutions endogènes pour se passer de l'aide extérieure, c'est-à-dire se résoudre à compter sur nos propres capacités, nos propres forces pour bâtir ensemble le Burkina face au que nous espérons et tel que nous le voulons qu'il soit. Au-delà de la priorité sécuritaire, la transformation que les Burkinabés appellent de tous leurs vœux doit également s'opérer au sein de l'administration et dans la gestion de la chose publique. Ainsi déclaré le 16 février 2022, Paul-Henri Damiba, le tout nouveau président du Faso à l'occasion de sa prestation de serment, rappelle l'Express du Faso pour qui, si cela peut être compris comme une volonté de dépolitiser l'administration et de changer les habitudes, il y a aussi qu'on ne peut pas réussir les objectifs d'une bonne gouvernance sans la baser sur l'existant, l'expérience et les compétences. C'est pourquoi le journal Bobolais invite le président Damiba, si telle était au début sa volonté, à recadrer certains agissements de manière à ce que des Burkinabés ne se sentent pas exclus du processus de refondation de la nation et de sauvegarde de notre peuple. L'observateur Palga, pour sa part, appelle les dirigeants africains à se sentir interpellés par ce qui se passe du côté de la Sierra Leone où des émeutes de la faim ont éclaté. Tout était parti pourtant d'un rassemblement pacifique organisé par des commerçantes en guise de protestation contre la vie chère, écrit l'Obs. La situation est devenue d'autant plus intenable que 40% de la population sierra-léonaise vit avec moins de 2 dollars par jour. Ajoutez à cela les accusations de corruption et de malgouvernance, poursuit le doyen des quotidiens qui fait cette mise en garde. Gare à la propagation de l'incendie dans d'autres pays. Pour le journal, ces émeutes de la faim qui touchent la capitale et d'autres localités de l'intérieur pourraient faire tache d'huile dans de nombreux autres pays, tant les ingrédients de manifestations d'humeur de ce genre sont réunis. Ainsi, selon notre confrère, il faut s'atteler à prendre des mesures vigoureuses pour soulager les populations qui n'en peuvent plus. Car c'est bien connu, les révolutions naissent quand les uns mangent et que les autres regardent, conclut l'observateur Palga.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Avec notre invité, il sera question de la situation politique au Tchad. Le gouvernement tchadien s'active pour l'organisation du dialogue national inclusif le 20 août prochain. Mais il pourrait se tenir sans la participation du principal groupe rebelle du pays, le FAC, responsable de la mort de l'ancien président Idriss Déby Itno. Le groupe armé du nord du Tchad a refusé lundi dernier de signer l'accord obtenu entre le gouvernement et les groupes politico-militaires. Dans cet entretien, son porte-parole donne les raisons de ce refus. Mais pour le moment, il n'est pas question de reprendre les armes, selon Issa Ahmad, porte-parole du FAC, groupe rebelle tchadien, joint depuis Doha au Qatar.
Issa Ahmad, bonjour.
Bonjour, monsieur Etiam Touré.
Vous êtes le porte-parole du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, et votre mouvement, avec une dizaine d'autres, a décidé de ne pas signer l'accord du 8 août dernier avec le gouvernement tchadien, alors que vous avez participé aux échanges jusqu'à ce stade. Quelles sont les raisons?
Effectivement, le FACT a participé aux négociations qui se sont déroulées du 13 mars au 8 août, mais le FACT n'a pas signé l'accord parce que, précisément, un certain nombre de revendications n'ont pas été prises en compte, en l'occurrence la parité au niveau du dialogue national inclusif et souverain, la libération de prisonniers à compter de la signature de l'accord, la modification de la charte, entre autres. Ce sont un certain nombre de points qui n'ont pas été pris en compte et nous n'avons pas jugé nécessaire de signer cet accord.
Est-ce que votre retrait à la toute dernière minute des négociations ne risque pas d'être perçu comme une sorte de trahison, de chantage vis-à-vis du gouvernement de N'Djamena? Est-ce que vous ne craignez pas cela?
Le rejet de l'accord ne veut nullement dire que nous avons rompu les négociations de façon définitive. Et nous avons d'ailleurs affirmé notre communiqué que nous sommes disponibles pour un dialogue en tout moment et partout. Donc c'est dire que nous saisissons encore cette occasion pour réaffirmer notre disponibilité quant au dialogue.
Le FACT, c'est quand même le principal groupe politico-militaire sur cette cinquantaine qui était présent à Doha pour ces négociations. Votre absence, est-ce que finalement on a ce consensus-là qui est présenté par le gouvernement?
Effectivement, le rejet de l'accord par le FACT et un certain nombre de politico-militaires fait que cet accord est doté de son caractère inclusif tant clamé. Effectivement, le gouvernement peut se vanter d'avoir eu un accord, mais un accord partiel qui n'a pas été signé par la totalité des mouvements politico-militaires, et c'est un accord qu'il faut parfaire. Donc c'est pourquoi nous réaffirmons toujours notre disponibilité à dialoguer et à résoudre la question tchadienne par le dialogue.
Mais aujourd'hui, quel est le cadre que vous proposez pour pouvoir satisfaire ces différentes conditions-là, maintenant que ce pré-dialogue est clôturé?
Nous continuons toujours à prôner le dialogue. C'est le seul cadre qui permettrait d'apporter une solution définitive à ces décennies de guerre qu'a connu le Tchad, incontestablement. Dialoguer et toujours dialoguer. Donc Doha pour nous n'est qu'un début, ce n'est pas une rupture définitive de négociation. On pourrait continuer sous d'autres cieux afin que nous parvenions à une paix définitive au Tchad.
Eh bien, cet accord du 8 août devrait ouvrir la voie à la tenue prochaine du dialogue national inclusif le 20 août prochain. Est-ce que vous allez y participer si les conditions que vous posez aujourd'hui ne trouvent pas satisfaction d'ici là?
Vous savez, le chèque de ces négociations est essentiellement dû à la mauvaise foi du gouvernement, essentiellement à son insincérité, alors que nous sommes allés jusqu'au bout. Afin que nous parvenions à signer cet accord, mais les hésitations du gouvernement ont fait que nous avons fini par rejeter cet accord. La conséquence est que nous ne pourrions pas prendre part à ce dialogue national inclusif et souverain qui devait avoir lieu à N'Djamena le 20 août.
Quand vous parlez de manque de sincérité, à quoi vous faites allusion? Qu'est-ce qui vous pose problème réellement dans l'attitude du gouvernement?
Bon, quand nous parlons de l'insincérité, ce que nous, en venant ici, nous pensions que nous arriverions à un consensus, à signer un accord et pouvoir participer au dialogue national inclusif. Mais malheureusement, nous avons trouvé un gouvernement qui n'a pas daigné nécessaire de faire des concessions. Par exemple, justement, nous accorder la parité au niveau du dialogue national inclusif, la libération de nos prisonniers de guerre, nous assurer un certain nombre de conditions en matière de sécurité, et voilà la conséquence que nous avons rejeté l'accord et nous ne pouvons participer au dialogue national inclusif, malheureusement.
Et maintenant, la dernière question, c'est peut-être la plus importante pour les Tchadiens et pour ceux de l'extérieur. Les négociations se sont terminées à Doha sans vous, le pré-dialogue, et maintenant le dialogue national inclusif et souverain probablement va se tenir sans vous également. La question qu'on se pose, est-ce que le FACT va reprendre les armes à la fin de cette transition?
Nous, au niveau du FACT, notre outil de résolution du conflit, c'est le dialogue. Ce n'est pas la guerre, justement. La guerre ne résout en rien les problèmes. Et c'est essentiellement avec le dialogue et de façon politique qu'on pourrait résoudre la question, les problèmes du Tchad, mais pas avec la guerre. Donc, même si nous avons rejeté cet accord, nous avons espoir que d'autres négociations feront en sorte que nous arrivions à une paix définitive au Tchad par le dialogue.
Issa Ahmad, merci.
C'est plutôt moi qui vous remercie, mais c'est Thiom Thioré.
C'était l'invité de la rédaction.
C'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Adama Konaté a assuré la mise en onde et Ibrahim Niaoné vous a fait suivre ce journal sur la page Facebook. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie des programmes de Omega Media.
Radio Omega, l'info en direct.